L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Transistor Radio Évasion. C'est en direct à midi, c'est rediffusé à 18h. Il y a quelques semaines, nous avons reçu une première fois notre invité du jour pour aborder la question du droit public de la communication numérique de l'État. Nous avons réalisé à quel point le sujet était vaste et nous n'avons bien sûr pas tout abordé, notamment nous n'avons fait qu'effleurer la question des outils proposés par l'État pour accéder à ces services. Donc on voit ici se dessiner un sujet qu'on a déjà un petit peu dessiné, et ce sera le cœur de notre sujet aujourd'hui, la fracture numérique, l'accès ou non de tous et de toutes aux services de l'État en ligne. Nous allons voir ça avec Martin Huguin, dont la thèse porte sur la communication numérique de l'État. Bonjour.
Bonjour.
Les services numériques de l'État, on va revenir très rapidement sur les étapes de leur déploiement et, ce qui, et finalement la chronologie de l'apparition des problèmes, peut-être, c'est un peu ça.
Oui, exactement. Alors, pour traiter le sujet, il faudra effectivement qu'on commence peut-être par une brève introduction sur ce qu'est le numérique, comment est-ce qu'il s'est développé de manière vraiment un petit peu large, et dans un second temps, effectivement, la manière dont l'État, confronté au développement des technologies numériques, se les est accaparé, et finalement, donc, comment est-ce qu'il s'en sert aujourd'hui, quelles conséquences ça a sur les individus, sur les usagers. Et comment est-ce que les autorités publiques entendent effectivement résorber les problèmes que nous aurons identifiés au cours de l'entretien.
La fameuse fracture. Donc ça a commencé, il y a longtemps, hein, c'est ce qu'on avait déjà vu dans la précédente émission qu'on peut réécouter d'ailleurs.
Oui, effectivement. Alors peut-être pour commencer par la question vraiment du numérique, qu'on entendra comme étant les technologies d'information et de communication, donc ce qui va être le réseau Internet d'une part, les différents terminaux qui permettent d'accéder à ce réseau, donc au premier plan les ordinateurs, par la suite les smartphones, les téléconnectés, les montres connectées également. Et on peut identifier l'origine du numérique moderne comme étant donc l'invention du premier ordinateur par Alan Turing, donc, lors de la Seconde Guerre mondiale, qui était à la base uniquement un supercalculateur. Par la suite, dans le courant des années 60, aux États-Unis, on a 4 universités en collaboration avec le ministère de la Défense qui ont travaillé sur le développement d'un réseau de télécommunications qui s'appelait ARPANET. Et lentement, ce réseau ARPANET donc, s'est développé. On a eu une scission en fait, entre d'une part le réseau de télécommunications à vocation du public, ce qu'on appelle désormais aujourd'hui Internet, et le réseau ARPANET, donc militaire, qui est devenu le réseau MILNET, exclusivement dédié aux questions de défense aux États-Unis. Et pour terminer assez rapidement là-dessus, le réseau Internet apparaît donc dans les années 1990 et est un réseau mondial de télécommunications. Il permet donc les échanges de s'affranchir des barrières un petit peu spatio-temporelles pour permettre aux individus de rentrer en relation et d'accéder à des services. Cette évolution donc, des technologies de l'information, c'est finalement peut-être a connu son succès dans le courant des années 90 également, avec le développement des micro-ordinateurs, ce qui permet en fait à tout à chacun désormais d'accéder au réseau Internet et donc de pouvoir communiquer, accéder à des services et notamment d'accéder aux services de l'État.
Parce que l'État y a vu des occasions d'être plus efficace.
Exactement. En fait, donc la question de la dématérialisation des services de l'État, elle est justifiée par tout un discours techniciste, le discours de l'efficacité, parce que en dématérialisant les services, en les automatisant, le service public devient plus accessible. Vous n'avez plus besoin d'aller attendre devant un guichet de poste, vous n'avez plus besoin de prendre des rendez-vous en mairie. Si vous souhaitez obtenir une carte d'identité, vous n'avez qu'à faire la démarche en ligne. Vous pouvez la faire la nuit, vous pouvez la faire les jours fériés, les week-ends. Et effectivement, c'est tout ce discours donc, qui justifie la dématérialisation qui va gouverner un petit peu l'évolution des modalités de l'action publique, donc du début des années 2000 jusqu'à nos jours.
Et à quel moment est-ce que finalement les services de l'État numériques deviennent incontournables ?
Alors en fait, ça s'est passé en plusieurs temps. L'immixtion du numérique au sein de l'État, on peut placer le début environ dans les années 1970, où elle a uniquement une dimension interne. Donc les administrations achètent tout simplement des ordinateurs parce que ça leur permet de stocker de plus grandes quantités de documents, d'informations. Et le développement ensuite de l'administration vers l'extérieur grâce au numérique se situe approximativement au début des années 1980. Donc ça a commencé effectivement par le Minitel, qui était donc un réseau principalement français et qui permettait justement aux citoyens, aux usagers, d'accéder notamment à l'annuaire des services publics. Vous n'aviez plus besoin d'appeler un secrétaire de mairie pour connaître le numéro de telle institution. Vous appeliez par le Minitel, enfin vous contactiez pardon, l'administration par le Minitel et vous aviez accès directement à cet annuaire complet.
Mais c'était contournable puisqu'il restait le téléphone, le bottin éventuellement.
Et c'était contournable en fait. Ouais. Et c'est justement une des logiques qui justifie ces recours au Minitel. Le but c'est de désengorger les lignes téléphoniques. Parce que quand 50 individus cherchent à obtenir le numéro de la préfecture, s'ils y ont directement accès via le Minitel, ils n'ont pas besoin de recourir à 50 agents différents pour leur répondre. Et donc c'est Minitel, donc, qui était vraiment la première dématérialisation de l'action de l'État à destination du public, il a par la suite migré vers les technologies numériques, vers Internet. Et le point de départ vraiment de cette politique de dématérialisation, c'est ce qu'on a appelé la PACSI, donc le programme porté par Lionel Jospin, Premier ministre en 1997, qui annonce la migration de tous les services disponibles sur le Minitel vers le réseau Internet. Donc à la fois, en fait tout simplement, transférer les services qui étaient disponibles et en créer de nouveaux. Notamment, ça a permis de faire des vitrines pour les différentes institutions. Et les individus pouvaient désormais y accéder, tout simplement en tapant sur un moteur de recherche le nom de l'institution à laquelle ils souhaitaient accéder.
Ça, c'est très bien, tant que ça reste vraiment une solution alternative. Mais le problème, c'est qu'il y a un recul des autres, enfin des solutions non dématérialisées, en fait.
Exactement. En fait, à partir du début des années 2000, donc on a différents plans de dématérialisation de l'administration. Je pense au plan administration électronique en 2004, à France Numérique en 2008, à la transformation de l'État en 2017. Donc toutes ces politiques publiques ont vocation à encourager le développement des technologies numériques au sein de l'administration. Or, au début, le recours au numérique n'est qu'une faculté. On a toujours la possibilité, si on n'a pas envie, si on n'a pas la possibilité technique, cognitive, pour accéder à l'administration par les technologies numériques, de se rendre en mairie, de passer des coups de téléphone auprès des préfectures pour obtenir les rendez-vous qu'on souhaite. Or, cette possibilité, cette alternative, elle tend à disparaître. On a donc de plus en plus de services publics qui ne sont accessibles presque qu'en ligne, j'ai envie de dire. Et lorsque une personne souhaite, par exemple, prendre rendez-vous en préfecture, elle doit donc passer par la plateforme numérique. Si jamais vous souhaitez appeler par téléphone la préfecture, vous allez tomber sur une boîte vocale qui répondra de manière très large et pas forcément pertinente à vos différentes questions et vous renverra pour toutes vos demandes plus précises à la plateforme numérique de la préfecture.
De même que les versions papier, j'imagine, tendent à disparaître. Il y a encore celle des impôts, et d'ailleurs, il faut la remplir plus vite que quand c'est en ligne, mais il y a peut-être des versions papier qui ont disparu, non ?
Oui, effectivement. Alors, la plupart des démarches, et ça, c'était une des orientations politiques du président Macron lors de son premier mandat en 2017, d'annoncer que 100% des démarches administratives se feraient en ligne à la fin de l'année 2022. Et effectivement, par l'action de différentes organisations de la société civile, de différentes autorités publiques qu'on évoquera plus tard dans l'émission, le président a fait marche arrière en considérant qu'il fallait effectivement quand même laisser une alternative d'accès aux services publics, à l'administration, hors du numérique, justement, notamment à cause d'un problème qui est la fracture numérique.
Voilà. Alors, quand est-ce que le terme est apparu de fracture numérique ? Est-ce qu'on le sait ?
Alors, c'est un terme qui apparaît aux États-Unis au début des années 90, donc nécessairement parce que les Américains étaient plus sensibles à Internet avant nous. Les Français étaient toujours sur le Minitel à cette époque. Et c'est un terme qui est popularisé par Bill Clinton, donc en 1996, lors d'un discours de Knoxville, il me semble, où, pour reprendre ces termes, il cite « Nous avons mis la nation au défi de s'assurer que nos enfants ne soient jamais séparés par une fracture numérique ». Alors, la fracture numérique, qu'est-ce que c'est ? Il faut comprendre que donc, dans la fracture numérique, l'idée, c'est une rupture dans un lien donc, qui unit la société, mais qui unit également la société à l'État, et numérique nécessairement parce qu'elle est creusée par l'apparition, puis la place incontournable qu'occupent les technologies de l'information et de la communication dans les liens entre les individus. et dans les liens qui unissent les individus à l'État. Donc, la fracture numérique, elle est effectivement présente dans la relation qu'ont les individus avec l'État, et c'est une thématique centrale au sein des différentes politiques publiques des dernières années. Il faut néanmoins garder en tête que cette fracture numérique, elle a aussi une dimension plus récréative, plus ludique, plus sociale, qui fait que les personnes contraintes de recourir au numérique pour pouvoir échanger ou accéder à des services, je pense par exemple au streaming, aux jeux vidéo, ils doivent nécessairement recourir aux technologies numériques, et quand ils n'ont pas les moyens de le faire, ça conduit à les marginaliser.
Alors, ne pas avoir les moyens, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il y a plusieurs symptômes, entre guillemets, de fracture numérique, cause plus exactement.
Oui, alors donc, la fracture numérique, c'est effectivement donc, le phénomène sociologique qui désigne les inégalités d'accès au numérique. Et le sociologue donc, Adam Ben Youssef, qui a écrit l'un des articles un petit peu précurseur sur la question, identifie 4 degrés de fracture numérique. Donc nous, on s'intéressera principalement aux deux premiers. Le premier degré de la fracture numérique, c'est les inégalités d'accès au réseau. Il y a des territoires, généralement ce sont des territoires ruraux, qui ne sont pas couverts par le réseau Internet, pas couverts suffisamment par le réseau Internet. Vous avez toute une partie de la France dans laquelle le réseau est toujours couvert par la 3G, alors qu'on en est à la 5e génération maintenant, voire à la 6G bientôt pour les opérateurs de télécommunications. Vous avez le deuxième degré de la fracture numérique qui est les inégalités d'accès matériel. Donc vous avez un réseau sur votre territoire, mais vous n'avez soit pas d'ordinateur, vous n'avez pas de smartphone, ou alors vous n'avez même tout simplement pas les compétences cognitives pour pouvoir vous en servir.
Oui, c'est encore autre chose, ça.
C'est ce que les médias appellent vulgairement l'électronisme, qui est donc le deuxième degré effectivement de la fracture numérique envisagé d'un point de vue vraiment global.
Alors, soit parce qu'on est trop âgé, puis que vraiment on est dépassé par le fonctionnement de ces machines, soit parce qu'on est aussi illettré. Enfin, j'imagine que c'est une bonne raison de ne pas pouvoir y accéder.
Exactement. Le numérique constitue une barrière supplémentaire dans l'accès aux services publics. Donc, c'est quelque chose que j'évoquerai peut-être un tout petit peu plus tard. Mais donc, on a deux choses. D'une part, le numérique marginalise une partie de la population qui ne l'était pas forcément avant. En contraignant les personnes à recourir à Internet pour prendre des rendez-vous en préfecture, pour effectuer des demandes de carte d'identité, de passeport, de permis de conduire, des personnes qui le faisaient auparavant très bien lorsqu'elles avaient simplement à se rendre en mairie sont aujourd'hui mises en difficulté par l'obligation de recourir à ces plateformes.
Par exemple, les retraités, c'est ça ou...
Par exemple, les retraités notamment, mais je pense aussi aux ressortissants étrangers qui sont présents sur le territoire. Pour des personnes qui ont déjà la barrière de la langue, pour pouvoir accéder aux démarches administratives, on leur rajoute l'obligation d'accéder à un terminal, en fait, qui permet de se connecter au réseau Internet, qui redirigera par la suite sur le site de l'institution. Donc, quand on ne parle pas français, éventuellement qu'on n'a pas encore de domicile fixe, qu'on n'a pas le matériel, on n'a pas de smartphone, on n'a pas d'abonnement, ça rajoute effectivement, ça accroît peut-être les discriminations sociales qui existent, notamment dans sa dimension d'accès aux services publics.
Et les autres degrés de fracture numérique, quels sont-ils ?
Alors, le troisième degré, c'est les personnes qui ont accès au réseau, qui maîtrisent de manière très large les technologies numériques, mais qui ne la maîtrisent pas suffisamment pour en tirer des bénéfices de l'utilisation. Par exemple, quelqu'un qui sait se servir du YouTube, mais qui ne saurait pas aller au bout de sa déclaration d'impôt en ligne.
Mmh. Ou quelqu'un qui sait servir de Google, mais qui ne sait pas vraiment faire une recherche pertinente.
Exactement.
De mots-clés, par exemple.
Exactement. Mmh. Et alors, on a une idée reçue sur laquelle, que j'aimerais bien mettre en lumière, qui est que la génération Z, donc les générations récentes, ne rencontreraient aucune difficulté avec le numérique parce qu'elles sont nées avec. Ce qui est totalement faux, parce que effectivement, et sans entrer dans la caricature, si les générations qui ont grandi avec le numérique sont effectivement à l'aise avec les outils, elles ont surtout un usage qui est récréatif. Elles savent accéder à des jeux, elles savent accéder à des services de divertissement, je pense à TikTok, je pense à Instagram, et on se rend compte que l'écart qui existait déjà entre les populations jeunes et l'administration, parce que ils ont peut-être moins de compréhension de son fonctionnement, il est encore accru par le numérique parce qu'ils n'ont pas, là encore, les compétences pour accéder à ce qu'on appelle un téléservice, un service public dématérialisé.
Ne serait-ce que l'usage du mail, par exemple, qui, j'ai l'impression, se perd dans ces générations.
Exactement, effectivement. Ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt et, de fait, ils n'ont pas les compétences spécifiques pour accéder aux services de l'État ou, en tout cas, de manière en retirer des bénéfices.
Et vite fait, il y a un quatrième degré aussi de cette fracture numérique.
Alors effectivement, le quatrième degré sur lequel on ne s'arrêtera pas spécifiquement, c'est la possibilité donc, de retirer des bénéfices en dehors du numérique. Donc le fait d'utiliser le numérique, par exemple, pour l'apprentissage, quand on apprend des choses grâce à Internet, on en ressort forcément peut-être plus fort ou avec une meilleure position dans la société en dehors de la société numérique. Et bon, voilà, c'est effectivement, si on ne maîtrise pas le numérique ou pas suffisamment, les bénéfices un petit peu externes qu'on ne mettra pas en œuvre sur le réseau mais en dehors sont complexifiés nécessairement.
Mmh. Les écarts se creusent en fait, quoi. Et donc cette fracture numérique, on l'a bien identifiée. Elle s'est manifestée par un mouvement social qu'on a bien connu en France notamment.
Oui, alors donc c'est effectivement une des causes qui a conduit au mouvement des Gilets jaunes. Alors pas la fracture numérique en tant que telle, mais plutôt les conséquences qu'elle a. Comme je l'ai dit au début de l'émission, la dématérialisation de l'administration, elle est vendue par les pouvoirs publics comme étant un outil d'efficacité du service public. Donc, tout le monde le sait, l'administration, le service public fait depuis très longtemps l'objet de critiques, d'inefficacité, de lenteur. Et le numérique s'est vendu comme quelque chose qui va permettre de dépasser ces difficultés. Pour deux raisons. D'une part, parce que ça permet d'élargir l'accès au service public. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'affranchit des horaires de mairie, de l'éloignement géographique qui nous éloigne peut-être de la préfecture. Et aussi et surtout parce qu'on va avoir recours à des algorithmes. Donc, en fait, on va traiter les demandes de manière automatique, ce qui fait que ça ne nécessite plus d'avoir un agent qui traite 50 dossiers, mais que le traitement des demandes peut être réalisé de manière presque automatique aujourd'hui. Et forcément, pour l'État, c'est plus intéressant. Ça permet d'avoir moins d'agents, moins de points physiques d'accès aux services publics et quelque part de rationaliser ses dépenses.
Oui, puis de les reporter sur nous, parce que quand on doit imprimer des trucs nous-mêmes, par exemple, c'est pas l'État qui les imprime.
Exactement. Mmh. Et en fait, c'est un des facteurs qui peut expliquer la crise des Gilets jaunes, c'est que comme les procédures sont dématérialisées, l'État considère qu'on a moins besoin d'avoir de points physiques pour accéder aux services publics, ce qui fait qu'on ferme les bureaux de poste dans les communes rurales parce qu'on considère que au sein de la communauté de communes, à 30 km de notre village, on a un autre bureau de poste. Donc, la disparition territoriale, on va dire, des services publics, notamment dans des communes un petit peu rurales, c'est le fait de la dématérialisation et c'est une des critiques qui a été portée par les Gilets jaunes qui veulent tout simplement un accès local à leurs services publics.
Oui, parce qu'il y avait la question des carburants, donc des déplacements. France, les unités France Service sont apparues après la crise des Gilets jaunes, d'ailleurs, non ?
Alors, les maisons France Service, effectivement, ça se date, je dirais, à partir de 2018, je pense, et c'est un des moyens qui a été envisagé par l'État pour pallier les lacunes de la dématérialisation. C'est qu'on permet d'une part aux gens d'accéder au site des institutions, parce qu'ils ont un ordinateur et une connexion, ils peuvent y accéder librement. Et en plus de cela, on a des personnels qui sont spécifiquement en fait, désignés pour accompagner les personnes qui rencontrent des difficultés à effectuer leur démarche.
On entre déjà un petit peu dans les solutions. Enfin, avant d'aborder les solutions proprement dites, je voulais savoir s'il y avait eu des procès, des recours de citoyens contre cette fracture numérique. Est-ce qu'il y a une jurisprudence ? Quelle est-elle ?
Alors, effectivement, donc, les autorités publiques se sont saisies du problème et les recours sont pour l'instant assez rares, j'ai envie de dire. Soit que il y a très peu de recours qui arrivent jusqu'au Conseil d'État, qui est donc la juridiction suprême des litiges entre les citoyens et l'administration, dont les décisions font le plus de bruit. Et moi, j'ai identifié donc principalement deux décisions qui sont intéressantes et qui traitent donc ce qu'on appelle le contentieux des étrangers. Donc des ressortissants qui souhaitent prendre rendez-vous en préfecture pour obtenir des titres de séjour. Et cette prise de rendez-vous, elle se fait obligatoirement par le biais des plateformes numériques. Donc on a des associations, notamment la CIMAD, qui portent les recours en disant « Quand on vous appelle par téléphone pour prendre des rendez-vous, votre boîte vocale nous amène directement sur Internet. Or, les personnes que nous, on défend, qu'on prend en charge, ils n'ont pas accès à Internet, ils ne parlent pas la langue. Comment est-ce qu'ils peuvent effectivement prendre rendez-vous ? Parce que leur demande soit acceptée ou refusée, c'est une chose, mais toujours est-il qu'il faut qu'ils puissent défendre leur cause. » Et le Conseil d'État, dans deux décisions donc de 2019 et de 2022, a commencé donc par rappeler que la prise de rendez-vous en préfecture, elle devait être envisagée d'un point de vue numérique uniquement. Elle devait être simplement facultative. On doit avoir la possibilité d'accéder au rendez-vous en préfecture par d'autres moyens. Et dans un deuxième temps, en 2022, le Conseil d'État a rappuyer, j'ai envie de dire, sur le bouton, en disant que l'obligation de recourir au site internet de la préfecture pour prendre un rendez-vous, elle était illégale. Elle portait atteinte au grand principe qui était posé par la loi.
Alors, est-ce qu'on a remis un accueil téléphonique dans les préfectures? Ça reste à vérifier.
Alors après, là, c'est question effectivement de l'efficacité, de l'effectivité, pardon, des décisions de justice. Et je pense qu'on peut, s'interroger dans la mesure où la décision de 2019 était relativement claire. Mm-hmm. Ça doit rester un moyen facultatif d'accès aux services publics. Si le Conseil d'État a dû revenir dessus en 2022, trois ans plus tard, j'imagine qu'effectivement, la décision n'a pas été suivie par toutes les préfectures, ou en tout cas de manière insuffisante.
Et quels ont été les autres moyens mis en œuvre par les autorités publiques pour limiter la fracture numérique?
Alors, on a, à mon avis, deux dimensions qui sont intéressantes. La première, c'est l'éducation. Parce que si on prend la fracture numérique comme étant donc, l'exclusion, les inégalités d'accès au réseau Internet, c'est un phénomène qui est voué à se résorber de manière systémique. Tout simplement parce que les jeunes sont moins touchés par cette fracture numérique et l'enseignement à l'école, donc par les cours d'informatique notamment, ça permet de sensibiliser les enfants à se servir de ces technologies et on peut espérer effectivement qu'ils n'y seront jamais confrontés. Le deuxième volet, c'est que l'État travaille sur l'élargissement de la couverture d'Internet. Donc il a en fait tout simplement des conventions avec des opérateurs de téléphonie mobile, de télécommunications, pour améliorer la couverture sur l'ensemble du territoire et éviter ce qu'on appelle les zones blanches, donc des zones qui ne sont pas couvertes par le réseau. Ça, c'est vraiment donc, les deux dimensions pour traiter les problèmes donc, à la fois d'accès au réseau et d'utilisation des technologies. L'autre alternative, enfin, une politique complémentaire, ça a été effectivement les maisons France Service, donc qui, à mon sens, sont, permettent en tout cas de régler une petite partie du problème, mais qui, dans tous les cas, a vocation à se résorber au fur et à mesure que la technologie progresse et que la population est sensibilisée de plus en plus jeune à l'usage, tout simplement, des technologies numériques.
Ceci dit, les services publics, en eux-mêmes, continuent à plutôt être réduits, les accueils humains à être limités. Là-dessus, il y a
complètement. Et puis, c'est vrai que c'est très délicat aujourd'hui de contacter un service public, d'avoir un agent au téléphone quand on appelle. Enfin, vous n'avez qu'à appeler une préfecture pour vous rendre compte que vous n'aurez jamais personne au bout de la ligne. Je pense par exemple aussi aux procurations. Parce que dans ma situation personnelle, j'ai dû aller faire une procuration. Mmh. La procuration peut se faire donc, en ligne. Mmh. Donc, et puis après, il suffit d'aller donc, signer la procuration, soit au tribunal, soit en police, en commissariat de police. Et pour y avoir été confronté il y a deux ans, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus rapide. Il m'avait fallu presque deux heures et demie au tribunal pour signer ma procuration. Là, en regroupant le temps de la démarche sur Internet et la signature en commissariat, j'en ai eu approximativement pour 20 minutes. Mmh. Donc c'est vrai, d'une certaine manière, que la dématérialisation du service public, elle a des bénéfices pour une grande partie de la population. Toujours est-il que cette amélioration pour une grande partie de la population, elle ne doit pas se faire au détriment des personnes qui n'y sont pas sensibilisées, qui n'y ont pas accès, parce que le grand principe qui a gouverné des décennies durant le fonctionnement de l'administration, c'est le principe d'égalité.
Alors justement, oui, vous avez observé, vous, Martin Huguin, une inversion, par l'usage de l'état des outils numériques, une sorte d'inversion des principes du service public. Vous pouvez nous expliquer?
Oui, alors là, on est sur peut-être une critique de l'ordre un petit peu théorique, mais qui est que le service public, la conception française du service public, a pendant des décennies reposé sur le principe d'égalité. Ce qui veut dire que les usagers doivent pouvoir accéder de manière égale au service public et une fois qu'ils ont accédé au service public, ils doivent être traités de manière égale. Tout simplement, c'est l'interdiction des discriminations de l'administration vers les citoyens. C'était le principe cardinal pendant des années et on a donc deux autres principes du service public qui sont donc le principe de continuité du service public. Donc les missions de l'administration doivent fonctionner de manière ininterrompue pour pouvoir satisfaire les besoins collectifs. Et le troisième principe qui a été un petit peu marginal dans un premier temps, qui est le principe de mutabilité. Donc l'administration doit adapter les moyens de ses missions aux technologies dont elle dispose, tout simplement. Et là où cette hiérarchie, donc principe d'égalité qui prime sur la continuité, qui prime sur la mutabilité, a révélé un petit peu l'opinion visiblement des gouvernants et des juges pendant des années, l'immixtion du numérique, la prise en charge du numérique par l'administration semble renverser ces principes et semble de la même révéler un petit peu ce changement de paradigme, ce changement de conception des gouvernants vis-à-vis du service public sous couvert d'efficacité. Parce que le service public serait plus efficace une fois dématérialisé, on va encourager le développement du tout numérique. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Parce que ça permet d'assurer la continuité du service public. Deuxième principe, vous pouvez accéder au service public en tout temps et en toute heure. Cependant, et comme on l'a donc relevé à plusieurs reprises au cours de l'émission, c'est quelque chose qui se fait malheureusement au détriment du principe d'égalité, à la fois sur l'accès aux services publics, mais aussi parfois, et c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, au détriment de l'égalité de traitement quand vos demandes sont traitées par un algorithme et que donc vous ne pouvez plus plaider votre cause directement auprès d'un agent qui, lui, contrairement à l'ordinateur, est doué de sensibilité et capable d'écoute.
La question de l'intelligence artificielle que nous traiterons en effet dans une autre émission. Merci beaucoup Martin Huguin. On viendra avec vous peut-être la saison prochaine sur la question des réseaux sociaux et de l'État. Sujet fort, fort passionnant aussi. En attendant, on peut réécouter cette émission et les autres sur le site internet de la radio.
Merci beaucoup.